que tu peux me mettre du son? Petit bazar, yo.
Bazar, Radio Calais.
Ou ce genre de choses.
Surprise!
Le petit bazar, Radio Calu.
Le petit bazar, petit bazar.
Le petit bazar,
le petit bazar.
Le petit bazar,
petit bazar. Le petit bazar, le petit bazar.
Et le magnétisme.
Petit bazar, mais gros bordel.
Salut, salut.
Bonjour à tous.
Et donc voilà, vous êtes dans la 86 ou 87e émission du Petit Bazar. Faudra qu'on reprenne un peu les comptes un jour. Comme vous venez de l'entendre, c'était donc PJ Harvey avec The Wheel. Donc c'était le premier extrait de son album à sortir la semaine prochaine. Depuis, il y en a eu deux autres. Il y a eu The Community of Hope et il y a quelques jours, The Orange Monkey. L'album s'appelle The Hope 6 Demolition Project et à mon avis, il sera plutôt énorme si on en croit les trois extraits qui ont filtré.
Parti. On peut dire peut-être deux mots sur la chanson qu'on vient de passer du coup qui est en fait le concept de l'album du nouvel album, c'est plus ou moins en fait un carnet de voyage de PJ qui a voyagé notamment au Kosovo, en Afghanistan et aux États-Unis dans des logements, quartiers de logements sociaux, et on a tiré un album qui est un peu une chronique voilà de ces voyages là et là c'était inspiré en fait de son voyage au Kosovo quoi, et de la manière dont elle a vu en fait le traumatisme encore très présent du conflit 98-99 entre la Yougoslavie et le Kosovo quoi. Et donc voilà, c'était une chanson qui parlait alors je sais plus exactement à quoi la roue donc du titre fait référence, qui figure aussi sur la pochette, une pochette assez énigmatique. Le Hope 6 en fait du Demolition Project du titre, c'est inspiré du quartier Hope 6 à Washington DC. Et voilà quoi. Bon, ça va être un album qui, comme Let England Shake, celui qu'elle a sorti il y a 4-5 ans, va être plus en fait ouvert sur le monde et moins introspectif comme l'étaient ses albums précédents quoi.
Ça va être un disque très politique surtout.
L'image de Let England Shake quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la seule émission le seul thème qui nous a motivé à nous lever ce matin, qui est donc une petite spéciale PJ Harvey. Donc pour deux raisons. La première, Max vient de vous la donner, c'est que son album sort la semaine prochaine, vendredi prochain. Son 11e album, si on compte ses deux albums collaboratifs avec John Parrish. Et aussi parce que, autre actualité de PJ Harvey, elle aura donc un concert à Lyon, événement Nuit de Fourvière, à la mi-juin. Voilà, donc on va vous proposer un petit tour d'horizon de sa carrière on a commencé par la fin, on va dire quoi, l'extrait du nouvel album, et on va repartir du tout début avec un extrait de ce qui est personnellement moi mon album préféré de PJ, qui est Dry. C'est un album qu'elle a enregistré en fait à 21 ans alors qu'elle était encore étudiante dans une université du Dorset où elle est née. Elle a enregistré en fin d'année 91 et il est sorti en début de l'année 92 pour devenir une espèce d'album très très culte, vénéré par plein d'icônes grunge en fait de l'époque. C'est figuré dans le top des meilleurs albums de tous les temps de Kurt Cobain, le top posthume quoi. Voilà, c'est un album qui on comprend pourquoi Kurt Cobain l'aime tant quoi. C'est un album qui est super rêche, super brutal, très sec comme l'indique son titre quoi. C'est le seul album avec Rid of Me ensuite qu'elle enregistrera avec le trio qui était en fait originellement PJ Harvey quoi, composé de Rob Ellis et de Mick Harvey. Et voilà quoi, donc c'est un disque qui est extrêmement rêche, extrêmement brutal, très très personnel, qui vraiment fait assez mal quoi, qui est très très intime et assez douloureux, avec un son grunge vraiment très 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 primaire quoi. Et puis la section rythmique balance bien sur ce disque quoi. Donc j'ai choisi un extrait, ma chanson préférée de cet album, qui est quand même aussi une des chansons préférées en général des fans de PJ Harvey, c'est Sheila Nagig, qui est la première de la phase B, qui est un des singles qu'elle a en fait écrit à l'âge de 17 ans. C'était une de ses premières chansons qu'elle a écrites. Sheila Nagig en fait c'est des statues qu'on voit surtout sur les îles britanniques, qui en fait sont des illustrations exagérées, hyperboliques de la femme, avec généralement des grandes vulves, grandes ouvertes comme ça. Et en fait c'est un album qui est très concentré sur la sexualité de la femme, et justement la sexualité réprimée de la femme, et la manière dont c'est un album très féministe quoi, la manière dont la femme en fait est cantonnée à un rôle, on va dire, face à cette image de la chasteté, et la manière dont PJ Harvey se moque un petit peu de ça. Et donc là par exemple Sheila Nagig est une chanson justement très ironique sur en fait le slut shaming en fait un petit peu avant l'heure quoi, c'est-à-dire en fait la manière dont on a tendance à je sais pas trop comment dire réduire la femme à un stéréotype comme ça hyper sexualisé, c'est la femme en tant que pute quoi finalement que Pete Gervais critique dans cette chanson. Et là en fait c'est un album qui travaille beaucoup justement la vision de la femme par l'homme et la vision réductrice de la femme par l'homme. Donc c'est une chanson qui est assez essentielle dans son esthétique et puis qui annonce tout de suite la couleur très féministe de qui sera celle de toute sa carrière quoi. Donc on s'écoute Sheila Nagy, extrait de Dry, c'était en 92.
Un peu brutal.
On vient donc de s'écouter. Mais est-ce que t'as le son de la chanson suivante dans ton casque ou pas, Max?
Non.
Ah bon, bah moi oui. Donc, bref.
Non, il doit y avoir un branchement bizarre.
Ah,
mais
c'est
y avait
parce
un...
que j'ai mis le PFL. Voilà.
Ouais, il y avait un.
Bon, et donc on reprend. C'était donc Sheila Nagy, extrait de Dry, le premier album studio de Pete Gervais sorti en 1992. On vous propose donc une émission spéciale Pete Gervais. Alors on a décidé de pas faire un ordre chronologique traditionnel. Pour essayer de voir un petit peu justement toutes les personas qu'a pu revêtir Pete Gervais au fil de sa carrière, quand même assez variée. Et donc là en fait on a fait donc la fin en début d'émission, là on vient d'avoir le tout début, bah là on va aller plus ou moins au milieu quoi.
Ouais, on va faire un petit bond temporel puisqu'on arrive direct en l'an 2000. Elle sort son album Stories from the City, Stories from the Sea, qui obtient donc le prix Mercury, donc son premier prix Mercury puisqu'elle est actuellement la seule personne à en avoir deux. Elle avait déjà eu plusieurs nominations au prix sur des albums précédents, dont To Bring You My Love en 95. Et donc voilà, succès critique phénoménal, succès public au rendez-vous, puisque je crois que c'est toujours son album le plus vendu à ce jour, Stories from the City.
Ouais.
Et pour moi, c'est un album que j'ai mis du temps à apprécier. C'est un album qui est beaucoup plus entre guillemets rock FM dans son approche. Il est plus lisse. Il a un son assez différent des précédents, qui étaient quand même plus limite parfois expérimentaux. Et en fait, c'est genre c'est une flopée de chansons juste exceptionnelles. Et ça commence sur les chapeaux de roue avec une chanson qui s'appelle Big Exit et qui parle un peu de la folie des armes aux États-Unis. Hein, j'ai l'impression quand même.
Ouais, plus ou... bah en fait c'est un disque qui a fait contrairement aux autres quand même super urbain, c'est un hommage à New York et tout. Et ça commence par une chanson bah justement sur la paranoïa un petit peu et sur ouais justement ouais exactement la folie des armes quoi. C'est super cool comme chanson. On la lance maintenant ?
Bah ouais. C'était PJ Harvey, toujours forcément, il n'y aura qu'elle aujourd'hui.
Ouais.
Avec Big Exit, donc la première chanson de Stories from the City, Stories from the Sea. Cette espèce de coup d'envoi comme ça, super épique, qui nous lance vraiment dans le train du disque. qui a des moments beaucoup plus posés, surtout vers la fin. Mais voilà, c'est un putain de morceau, un putain de disque, et on enchaîne.
Ouais, alors on va... alors oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça, c'est je pense, on peut dire, son album le plus accessible de toute sa carrière, quoi, Stories from the City. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu deux faces, quoi. Il y a un côté immédiat, quand elle fait ses albums grunge, ou quand elle fait ce genre d'album de pop, où vraiment, voilà, on a affaire à une artiste qui sait aussi écrire des tubes, quoi. Mais on a aussi une part très assez expérimentale, en fait, dans la carrière de PJ Harvey, qui prend une place importante, notamment, en fait, à partir de To Bring You My Love, dont on passera un morceau tout à l'heure. Donc on va dire dans la deuxième moitié des années 90, quoi. C'est sa période peut-être probablement la plus exigeante. Elle sort To Bring You My Love en 95, Is This Desire en 98, donc ses troisième et quatrième albums. Et entre ces deux albums là en 96, elle sort un disque collaboratif avec un artiste expérimental d'avant-garde qui s'appelle John Parrish, qui est un de ses collaborateurs réguliers sur ses albums studio aussi. Cet album s'appelle Dancehall at Loose Point. Il est complètement inclassable. Enfin, c'est vraiment un album ultra étrange, quoi. Enfin, qui part dans tous les sens. Dont bien sûr, PJ est particulièrement fier. C'est l'un de ses préférés. Elle le dit. ça a été un massacre commercial. Certains l'ont qualifié de suicide commercial parce que elle sortait de To Bring You My Love, qui était son succès critique le plus retentissant à ce jour, et puis qui était aussi un succès quand même public, qui l'a fait quand même, qui l'a ouverte à plein de nouveaux fans. Et puis ensuite, elle a sorti ça, qui a complètement déstabilisé tout le monde, parce que on va dire que ça poussait au maximum les expérimentations. Voilà, de blues un petit peu lassif de To Bring You My Love. Et puis ça annonçait aussi les touches un petit peu plus électro et avant-garde d'un album comme Is This Desire. Et du coup, c'est un disque un peu défouloir, quoi, où elle se lâche et où vraiment c'est complètement sauvage. Alors des fois ça fonctionne pas toujours, mais ça fait quand même un album assez fascinant et quand même assez assez passionnant, quoi. Donc du coup, c'est Dancehall at Loose Point. On va passer la chanson qui est, je dirais, l'une des chansons qui est plus ou moins restée quand même de ce disque là qu'elle performe encore beaucoup en live parce qu'elle l'adore, qui s'appelle Thought, qui est une chanson complètement folle, quoi. On va pas en dire plus, voilà. Juste il s'agit de demander à Jésus de nous sauver, sachant que PJ Harvey est quand même la moins religieuse de toutes les chanteuses, quoi. Donc voilà, je vous laisse avec Thought, extrait de Dancehall at Loose Point, l'album collaboratif de PJ Harvey avec John Parrish en 96. We'll be right back.
even the son of God had to die, my darling. Come on.
C'était brutal. Voilà, c'était donc le délire halluciné et assez effrayant de PJ Harvey en collaboration avec John Parrish. C'était en 96, le morceau s'appelle Thought. C'est extrait d'un album qui s'appelle Dancehall at Loose Point, très intriguant, assez passionnant. Et puis bah voilà, on disait donc tout à l'heure que c'était un petit peu le moment le plus expérimental et le plus aventureux peut-être de la carrière de PJ Harvey, la deuxième moitié des années 90. Et on va passer donc à son album, ses albums iconiques peut-être sont plus célèbres, To Bring You My Love, dont on va parler Max, puisque Max, c'est ton préféré, me semble-t-il.
Ouais, c'est vraiment l'album de PJ Harvey par lequel je suis rentré dans son univers et par lequel je n'en suis jamais sorti tout à fait. C'est donc voilà le premier album qu'elle sort en solo et pas avec le trio qu'il y avait sur Dry et Rid of Me. C'est sa première collaboration avec le producteur Flood, qui est aussi associé à Nick Cave and the Bad Seeds. Ça s'entend pas mal à l'écoute du disque, parce qu'on dirait vraiment limite que genre Nick Cave est derrière à écrire certaines
chansons. C'est
l'époque
en fait où elle commence à sortir avec lui. Donc...
Et c'est un album voilà qui commence par sa pochette shakespearienne, où elle est en Ophélie, comme ça, sur les eaux, tout en rouge, très sensuel. C'est un disque très sombre, très charnel, très sexuel, avec des morceaux un peu plus bluesy, un peu plus folk, et puis des espèces de grandes élégies... déchirante au milieu de l'album, dont on va en écouter une qui pour moi est juste une chanson renversante et absolument terrible. Et c'est son premier gros succès commercial, grâce notamment au single Down by the Water, qui a beaucoup tourné sur MTV à l'époque. Et encore aujourd'hui, ça reste un de ses disques les plus vendus et les plus appréciés. Et voilà, et il était nommé, donc c'est son premier disque à être nommé sur la shortlist du Mercury Prize. Alors le petit problème, c'est qu'en 95, à côté, il y avait genre Blur, Pulp avec Different Class, Primal Scream avec Screamadelica. Enfin, il y avait du joli monde en Angleterre en 95. Il y en a toujours aujourd'hui, hein, mais bon, disons 94-95, c'était vraiment deux très très grosses années niveau concurrence. Donc elle a pas eu. Je sais plus qui l'a eu d'ailleurs en 95, mais il me semble que c'est un truc qui n'est pas forcément genre resté autant, autant ouais, dans les mémoires. De temps en temps, il récompensait un artiste comme ça qui était dans le temps et qui restait
Mercury
pas.
Mercury Prize, c'est pas toujours une référence.
Oui, hein. Voilà, mais bon, ça reste une accolade assez importante.
Juste, Screamadelica, c'était 91.
Ah, 91, ouais. Attends, il y avait un autre Primal Scream alors qui était nommé,
ouais,
je crois.
Je sais pas.
Et du coup, voilà, donc on va s'écouter tout de suite une chanson qui s'appelle Teclo. On va l'écouter.
Allez, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Thank you.
C'était Teclo, issu de To Bring You My Love en 1995. Un disque qui rejoint un peu ce que tu disais sur Dry tout à l'heure. Pour moi, c'est un grand disque féministe en ce qu'il fait une espèce de portrait multiple de la femme contemporaine, mais pas de la femme qu'on nous montre, pas un modèle en fait, la femme rejetée, la femme marginale, la mère droguée, la prostituée, la traînée, la femme qui a un gros appétit sexuel ou la... L'amante est pleurée sur Teclo.
Tout à fait,
C'est vraiment un disque fabuleux et d'une grande intelligence. Et voilà.
Ouais, alors on va rester dans la joie et la bonne humeur. On va aller voir les années 2000, un peu de PJ Harvey, un album qui est sorti en 2004 qui s'appelle Her, qui est pas forcément, on va dire, le plus prisé des fans, même s'il y a quand même des très très bons morceaux dessus. C'est l'un de ces disques en fait les plus vraiment variés, en fait un petit peu comment dire freestyle quoi, enfin elle fait il y a un peu tout à la fois, les morceaux s'enchevêtrent sans toujours trop de cohérence, ce qui fait aussi le charme un petit peu brinque-ballon du disque, qui venait en fait après aussi son disque le plus cohérent et le plus solide, qui était Stories from the City quoi, et donc du coup on sentait qu'il y avait une volonté aussi de revenir à quelque chose d'un peu plus sauvage, d'un peu plus
celui-là la genre bidouiller chez elle avec ses instruments,
c'est le seul album avec le fort track Dimos, qui est pas forcément un album qu'elle a tout enregistré entièrement toute seule. En fait, elle a enregistré tous les instruments toute seule. Elle a produit l'album elle-même, à part pour 2-3 portions de batterie. Donc voilà, c'était un retour un petit peu aux sources pour elle, qu'on sentait nécessaire. Et du coup, ça rend l'album, je trouve, assez émouvant et puis avec des chansons quand même exceptionnelles quoi. Et il y a beaucoup d'humeur sur l'album. Il y a des morceaux très grunge, il y a des morceaux très pop. Ouais, l'ouverture du disque, voilà, Big Mouth, ou même Who the Fuck ou des choses comme ça. Il y a des petites dérives on va dire électroniques et tout, pas forcément heureuses sur l'album, et puis il y a aussi surtout vers la fin de l'album deux splendides ballades quoi, celle qui referme le disque et celle qu'on va s'écouter maintenant, qui est faite l'avant-dernière chanson du disque si on accepte la piste où il y a les mouettes qui chantent quoi. Donc c'est une chanson qui s'appelle The Desperate Kingdom of Love, donc le royaume désespéré de l'amour. C'est une ballade finalement qu'on ne trouve pas tant que ça dans la carte de Pigeon, parce que c'est vraiment une simple balade à la guitare sèche qui est vraiment assez bouleversante quoi, vraiment lumineuse avec une mélodie absolument incroyable. Je dis lumineuse parce que on a tendance avec le titre et aussi le texte d'ailleurs à considérer que c'est une chanson quand même très triste quoi. En fait, Pigeon Hervé dit que c'est une de ses chansons les plus optimistes et les plus joyeuses. On vous laissera juger de ça. ça reste la vie de Pigeon quoi. Mais en tout cas, voilà, on s'écoute une des grandes chansons de cet album sous-estimé qu'il faut redécouvrir de Pigeon Hervé, qui s'appelle Her, c'est The Desperate Kingdom of Love. Love. There's another who looks Et voilà, c'est donc la chanson la plus optimiste selon Pete Gervais de sa carrière. C'était The Desperate Kingdom of Love, extrait de Her, sorti en 2004. C'était à l'époque son, si on exclut les collaborations avec, avec John Parrish, c'était son sixième album. Et ben du coup, j'ai pas fait attention. En fait, c'est encore moi, Max, qui enchaîne. Désolé. oui, alors en fait, j'avais prévu un enchaînement après Teclo et Desperate Kingdom of Love. Je me suis dit, on va rebalancer quelque chose un peu plus, un peu plus percussif, quoi. On va revenir en fait au début de la carrière de PJ. Alors, on a choisi de pas passer un morceau de son deuxième album, Read of Me, parce qu'on en avait déjà passé un dans une émission précédente. On fait déjà d'ailleurs la même chose avec Letting Land Shake. Ce sont les deux albums qu'on a exclus un petit
mais
peu. De...
Écoutez Letting Land Shake.
Oui, bien sûr. Écoutez Read of Me aussi, d'ailleurs. Hein.
Large top 3 meilleur album de PJ Harvey. Hein.
Ouais, bah oui, ils sont tous géniaux de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, on revient un petit peu à ses débuts avec en fait une chanson qui n'a pas été enregistrée sur aucun album, qui n'est même pas en fait une face B, mais qui est malgré tout en fait une chanson assez connue de PJ Harvey qui s'appelle Naked Cousin, donc mon cousin nu. Le texte est très dérangeant et assez étrange. En fait, elle regarde son cousin bronzé au soleil. Elle rêve qu'il cuit et qu'il meurt en fait brûlé quoi. Donc voilà, c'est une illustration vraiment de sa période la plus grunge, avec vraiment encore une fois une section rythmique qui tabasse un maximum quoi. En fait, c'est une chanson qui est apparue à la base à la BO d'un film, c'était City of Angels dans les années 90, je sais plus quelle année exactement, 93-94, et qui la version la plus connue maintenant, la seule d'ailleurs vraiment enregistrée, c'est celle des Peel Sessions. Il faut savoir que PJ Harvey c'était une collaboratrice, enfin une amie intime de John Peel avant sa mort. D'ailleurs, Hoover a quelques morceaux qui sont en hommage
Elle a tiré un disque à John Peel.
Ouais. Et donc voilà, elle a fait plusieurs sessions avec lui qui sont restées un petit peu dans les annales quand même, qui sont considérées comme quelques-unes des meilleures Peel Sessions, parce qu'il y en a quand même pas mal de très très bien aussi quoi à côté, avec d'autres artistes assez mythiques.
Joy Division.
Voilà, entre autres, c'est vrai que voilà, c'est un mythe quoi. Hein. Et du coup, PJ Harvey était voilà très très ami avec lui, et elle a enregistré quelques-uns de ses meilleurs en fait enregistrements live dans les Peel Sessions quoi. Il y a deux grandes compilations qui sont sorties sur les Peel Sessions, une qui grosso modo rassemble les années 90, l'autre plus le début des années 2000 quoi. Et donc celle-là, c'est un extrait de la Peel Session de 93, et c'est donc Naked Cousin qui arrive en fait au moment où elle est en train de faire la transition de Dry à Read of Me, c'est-à-dire d'un son ultra grunge à un son encore plus ultra grunge. Donc du coup voilà, c'est un morceau qui est très rêche et qui est assez génial, avec voilà une basse et des riffs de guitare franchement qui arrachent quoi.
Voilà, la puissance primale du Pete Jarvet Trio des débuts, c'était Naked Cousin en 93, extrait donc de la Peel Session de l'époque, une chanson qui n'a jamais figuré sur aucun album, mais qui mérite largement sa place dans n'importe quelle discographie, selon moi. Puis voilà, on va retourner, qu'est-ce qu'on passe là?
Ah, et là, on passe Henry, donc on reste dans une petite mini-rubrique phase B, chansons qui sont pas issues de la discographie studio officielle de Pete Jarvet, puisqu'on va vous passer un morceau de Nick Cave, justement, en duo avec PJ Harvey. Donc en 96, Nick Cave and the Bad Seeds sortent le double album des Murder Ballads, qui s'achève sur les 15 minutes fantastiques de O'Malley's Bar.
Techniquement, il s'achève sur...
Il s'achève sur The Death of the End, mais ouais, disons que le morceau final, vraiment, c'est quand même genre ça. Et puis après, il y a la petite coda de Dylan.
PJ Harvey chante d'ailleurs aussi.
Où tous les invités du disque chantent un couplet, donc Kylie Minogue, PJ Harvey et deux, trois autres encore. Et donc voilà, sur ce disque de ballades mortifères et de ballades de crimes passionnels, se trouve un duo très très connu avec Kylie Minogue qui s'appelle Where the Wild Roses Grow, et un autre duo un petit peu moins connu mais qui était quand même un des extraits de l'album quand il est sorti, avec PJ Harvey, donc qui était sa compagne à l'époque encore, je crois.
Alors c'était l'amour fou là à l'époque. Hein.
Et donc la chanson s'appelle Henry Lee, et donc c'est l'histoire d'un serial killer. C'est une murder ballade quoi. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Et voilà, donc c'était Nick Cave and the Bad Seeds en duo avec PJ Harvey en 96 sur l'album Murder Ballads, et c'était Henry Lee. On va poursuivre donc avec une chanson que j'aime énormément, issue d'un album que j'aime un petit peu moins, qui s'appelle White Choke. L'album est sorti en 2007. C'est un des albums les plus étranges de PJ Harvey, qui généralement divise un petit peu quand même les fans. Il y a ceux qui adorent, comme Julien, et puis il y a ceux qui sont un peu sur le carreau. C'est à un moment où elle a voulu poser un challenge à son inspiration, et du coup elle a quitté ses instruments traditionnels. Elle a décidé d'apprendre le piano en autodidacte et de faire un album piano centré. Et donc sur White Choke, aux ambiances sépulcrales et un peu caverneuses comme ça, on a un truc très fantomatique et très étrange.
C'est aussi l'album où elle se met à l'auto-harpe,
oui, voilà, qui sera le grand instrument de la tournée et de l'album Let England Shake. C'est un album aussi réalisé avec John Parrish en tant que musicien de studio et producteur. Ce qui peut aussi expliquer le risque musical derrière le projet. Donc pour info, PJ Harvey sur ce disque chante, joue du piano, de la guitare acoustique, de la sitar, de la guitare basse, des claviers, de l'harmonica, de la harpe brisée et du violon en boîte à cigares.
Et bien dis donc.
Voilà, et donc on va s'écouter la dernière chanson de White Choke qui s'appelle The Mountain, et qui se termine sur un truc juste hallucinant. Et je passe un petit bonjour à Ben qui supporte souvent cette chanson qu'il n'aime pas trop à la maison. Donc voilà.
Un petit moment Kate Bush d'ailleurs à la fin de ce morceau.
Voilà, voilà.
Flying.
Radio Canu 102.2. On vient de s'écouter PJ Harvey avec The Mountain, la dernière chanson de White Chalk. Et rien que pour cette chanson, je lui pardonne ce disque.
Oh bah, il n'y a rien à lui pardonner.
Disque qui est quand même très beau, mais
bah oui.
Avec lequel j'ai un peu plus de mal.
Mais voilà, c'est vrai que c'est facilement l'un des 2-3 meilleurs albums closer de PJ Harvey, quoi. C'est vraiment un cri primal. Libérateur, voilà. Enfin, c'est vraiment magique, quoi. Oui, bah, on va du coup se dépêcher un petit peu pour refermer cette émission avec le dernier morceau qu'on avait prévu. Donc on espère que vous avez apprécié si vous ne connaissiez pas, et même si vous connaissiez aussi d'ailleurs, ce petit tour d'horizon de la carrière de PJ Harvey. On espère que ça vous aura donné envie de découvrir un petit peu sa carrière, qui est quand même, moi je trouve, assez phénoménale, quoi. Donc voilà, là, son nouvel album, on le rappelle, qui sort la semaine prochaine, de Hope Six Demolition Project. Elle sera en concert aux Nuits de Fourvière au mois de juin, et un petit peu à Paris, à Hérouville aussi, pendant le mois de juin. Donc voilà, on va refermer cette émission PJ Harvey avec une phase B qui est en fait l'une des plus connues, moi, l'une des mes chansons préférées de PJ Harvey, qui se trouve sur le 4-track Demos. En fait, c'était un réenregistrement de 8 chansons de Read of Me en forme de démo. Enfin, c'était les démos en fait de Read of Me, donc sorti juste après l'album Read of Me en 94. Et 6 chansons originales qu'elle avait à l'origine en fait composées pour Read of Me, qui était censé être un double album. Et donc Steve Albini était tellement fan en fait des démos de l'album qu'il avait proposé de les réenregistrer de manière encore plus rêche et encore plus vraiment primitive que Read of Me. Et donc du coup elle s'est assise dans sa chambre, elle s'est enregistrée sur une 4-track, et voilà, ça donne un disque complètement fou, quoi. Alors vraiment, c'est des morceaux dépouillés où ressort vraiment toute le côté psychotique de Read of Me, quoi. Et donc du coup on va s'écouter la chanson Reeling, qui est une chanson absolument folle. Et puis on va moi je vais vous dire dans 3 semaines, Mac va vous dire à la semaine prochaine, voilà. Ouais, et puis
on laisse la place au freestyle,
voilà, le freestyle des pentes arrive, et moi je termine l'émission en vous disant Robert De Niro, assieds-toi sur mon visage.